les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Notre dossier du jour consacré aujourd'hui à cette série emblématique qu'est Twin Peaks en compagnie de Sarah et cette fameuse interrogation.
Qui a tué Laura Palmer?
Ça c'est la bonne question du jour. Qui saura le dire un jour, ça c'est une autre question.
Ah moi je sais.
C'est vrai, oui, mais est-ce que réellement tu sais?
Ben non. Ce qu'il faut savoir avec Twin Peaks c'est qu'on ne sait jamais tout. Mais en tout cas, qui a tué Laura Palmer, c'est la question qui amène Dale Cooper à Twin Peaks. Certains disent en fait que ce meurtre a déclenché toute une succession d'événements dans la ville. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est peut-être plutôt l'introduction d'un personnage extérieur qui va tenter d'élucider les mystères et qui commence à se rendre compte que cette ville a des règles de fonctionnement un peu plus bizarres que dans d'autres. Twin Peaks est une petite ville du nord des États-Unis qui vit du tourisme et du bois, ça c'est pour la petite histoire, 51 201 habitants. Au début, il était prévu qu'il n'y en ait que 5121, quelque chose comme ça, mais la chaîne ABC trouvait qu'il s'était pas assez, alors ils ont rajouté un chiffre dans l'histoire. Dans cette ville, on retrouve les riches industriels, notamment les familles Packard et Horn. Il y a l'hôtel, il y a le snack, le double R, il y a son commissariat, les bois partout, la forêt de Ghostwood. Bref, une petite ville normale des États-Unis. Vous avez tous déjà vu...
Peut-être même un peu trop normale.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, dans cette petite ville, on retrouve une Laura qui est la reine du lycée, très populaire, blonde, jolie, la petite amie du capitaine de l'équipe de foot, si ça c'est pas un cliché américain, je te demande ce qu'il y a comme cliché américain, et qui, en plus de ça, distribue les repas à domicile. Bref, une jeune fille gentille, jolie, bien sous tout rapport. Et pourtant, il faut se méfier. Il y a une phrase dans Twin Peaks qui dit « Les hiboux ne sont pas toujours ce que l'on pense ». Et on se rend peu à peu compte que finalement, Laura menait une double vie, qu'elle avait plusieurs petits amis. Or, pour une reine du lycée, ça fait pas très bien. Qu'elle se droguait, qu'elle se prostituait et qu'elle était rongée depuis très longtemps par une présence un peu inquiétante, celle de Bob. Bref, sa vie, déjà courte, se résume pourtant à une lente descente aux enfers. Alors, à l'image de Laura Palmer, tous les habitants de Twin Peaks ont finalement quelque chose à cacher. Ils sont trafiquants de drogue, voleurs, intrigants, fous, meurtriers. C'est pas vraiment un endroit où il vaut mieux mettre les pieds. La première partie de cette série, qui s'étend de l'épisode 1 à l'épisode 16, reprend l'enquête sur le meurtre de Laura, donc dirigée par Dale Cooper, qui est un enquêteur du FBI. Pour la petite histoire, on voit la scène du crime dans l'épisode 8, quand Renette fait un cauchemar et on connaît réellement le meurtrier à l'épisode 14. Moi, c'est les premières scènes de meurtre qui m'ont réellement mise mal à l'aise à la télé, je dois dire. L'arrestation du meurtrier et sa mort s'étirent jusqu'au 16e épisode parce que le meurtrier meurt. Je vous dirai évidemment pas qui c'est.
Même si...
Si, c'est vrai que je peux vous dire qui est le meurtrier, c'est Bob, mais quand je vous dis ça, je vous dis rien. Donc ouais, c'est l'avantage
avec
cette série.
Ça, vous ne savez rien. Et pour être extrapolé en disant que la série est un énorme point d'interrogation.
Je crois que tu as trouvé l'image... Bon, ça
juste.
Va, le dossier est fini. Alors la deuxième partie de la série, c'est de l'épisode 17 à l'épisode 29, qui oppose en fait Dale Cooper à Wyndham Earl, qui est son ancien coéquipier au FBI et qui a été arrêté. On disait tout à l'heure que tous les personnages ont quelque chose à cacher. Non, au début, Dale Cooper n'a rien à cacher. Alors, est-ce l'influence de la ville? Je ne sais pas très bien, mais au moment où il décide de s'y installer, comme par hasard, on apprend qu'il a quand même un passé un peu trouble, qu'il a des choses à cacher, et lui, la chose qu'il a à cacher, c'est qu'il a eu une liaison avec la femme de Wyndham, qui s'appelait Caroline, et que, du coup, le mari l'a assassiné, sa femme. Et que depuis, il essaie de s'en prendre à Dale Cooper, même s'il est en prison, il lui fait depuis un certain temps des menaces de mort. Et en fait, il s'enfuit. Et voilà.
Et on peut peut-être résumer ce second arc dans Twin Peaks comme étant une vaste partie d'échecs meurtrières.
Effectivement. Alors tout ça, ça s'étend sur des demi-saisons. Autant le dire tout de suite pour ceux qui n'auraient pas vu et ceux qui vont entreprendre le visionnage de cette série dès maintenant, ça ne se termine pas sur un happy end. Donc si vous ne supportez pas les fins un peu bizarroïdes, les fins suspensives, il vaut mieux pas regarder Twin Peaks. En fait, Twin Peaks a été arrêté aussi un petit peu par la force des choses parce que l'audience en deuxième saison s'est fortement altérée. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent ça, c'est que d'abord la deuxième saison a été diffusée samedi soir, or c'est la case cimetière, c'est Mark Frost qui est donc le co-créateur de Twin Peaks avec David Lynch, qui avait commis East Street Blues, une fabuleuse série, donc c'est lui qui dit que cette case du samedi soir est un cimetière, et non seulement on la programme ce jour-là, mais en plus il y a parfois plusieurs semaines qui se passent avant qu'on ait un épisode, donc c'est une diffusion complètement hachée, et la guerre du Golfe numéro 1 n'arrange rien, puisque du coup on déprogramme carrément pendant tout un temps la série pour passer à la place des flashs spéciaux, et que les téléspectateurs ne sont plus nécessairement au rendez-vous quand ça se termine. Et en plus de ça, les téléspectateurs, en fait, à peu près vers le 6e, 7e, 8e épisode, jusque là ça allait, puis après ils se sont dit, mais enfin, où est-ce qu'on nous balade ici? Et donc les premiers épisodes ont été très suivis, mais rapidement l'audience a baissé parce que le public comprenait pas très bien où il allait. Ceux qui sont rentrés dans l'univers de David Lynch et de Mark Frost ont adoré, mais ceux qui n'y entraient pas, par contre, là j'aime autant vous dire que quand on ne rentre pas dedans, on arrête tout de suite. Et puis finalement, en fait, aussi ce qui a posé un peu problème, c'est le passage entre la première et la deuxième intrigue. Et là, c'est même Mark Frost qui le dit. Il dit donc qu'après une intrigue aussi riche que celle de la mort de Laura Palmer, ils ont introduit Dom Earl, mais ils l'ont pas introduit assez vite. Donc en 2-3 épisodes, l'univers a complètement changé. Il a fallu que les téléspectateurs attendent un petit peu que ça reprenne, donc pendant 1 ou 2 épisodes de transition, ceux qui n'ont pas aimé. Et d'un autre côté, s'ils avaient introduit le personnage plus tôt, ils auraient pu faire un passage beaucoup plus coulé entre les deux saisons.
Vous savez, mais alors là, il est véritablement bon ce café. Je ne sais pas combien de tasses de café j'ai pu boire dans ma vie, mais ça, c'est un des meilleurs. Et maintenant, je voudrais 2 œufs au plat. Je sais, ça n'est pas conseillé pour les artères, mais les vieilles habitudes sont tenaces. Et j'adore les œufs. Bacon, je le veux bien cuit ou presque brûlé. Au beurre. Ce sera parfait. Et je voudrais un jus de pamplemousse. Attention, je ne veux pas de concert. Il faut qu'il soit pressé.
Je m'appelle Audrey Horn.
Bureau fédéral d'investigation. Je suis l'agent spécial Dale Cooper.
Je peux m'asseoir.
Mademoiselle Horn, si je ne me trompe pas, votre père est Benjamin Horn, le propriétaire de cet établissement. Je suppose que vous pouvez vous asseoir n'importe où, et j'avoue que ça me ferait très plaisir.
Merci. Vous êtes chargé de l'enquête sur Laura Palmer?
Vous étiez une amie de Laura Palmer?
Pas exactement, non. Laura s'occupait de mon frère au moins 3 fois par semaine. Johnny a 27 ans et il est encore étudiant. Il a des problèmes plus ou moins nerveux. Ça doit venir de la famille. Elle vous plaît, ma bague?
Ravissante.
Il y a des moments où je rougis sans pouvoir m'en empêcher. C'est intéressant. Est-ce que vos paumes vous démangent?
Quand le premier dossier a été bouclé, moi je suis tombée dans un des travers dans lequel doivent tomber, à mon avis, beaucoup de gens, c'est d'essayer de comprendre à peu près tout ce qu'il y a dans Twin Peaks.
Ce qui est quelque chose de complètement...
Pas possible.
Impossible.
Oui, c'est clair. Et donc depuis, je me suis dit, ben non, tout n'est pas à comprendre. Alors un exemple donné par Mark Frost dans une interview qui est publié dans Génération Série numéro 35, c'est qu'en fait, à un moment, il y a une scène avec une crème au maïs qui se téléporte dans une pièce. Et Mark Frost dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? David Lynch lui répond, ben, on en avait mangé à midi, je trouvais ça rigolo. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Parce qu'il y a quand même des choses qui nous permettent un petit peu de décoder cette série. C'est d'abord, c'est un soap-opéra. Et donc, je vous rappelle, les soap-opéras de jour, ce sont des intrigues multiples, avec des secrets partout, avec un dévoilement très lent de ce qui s'y passe, de ce qui s'y dit, etc. Et on retrouve ça dans Twin Peaks. Par exemple, on a l'ami officiel de Laura et son petit ami, qui était caché. Évidemment, quand ça se sait, les uns et les autres se menacent de mort. À côté des histoires d'amour, on retrouve aussi des histoires de complot, comme on en a aussi dans les soap-opéras. Donc l'une qui complote contre l'autre pour avoir la Syrie, ça c'est l'histoire entre Catherine et Josie, par exemple, avec des tentatives de meurtre, avec le retour du frère qui était mort. Enfin, il faut savoir que Lynch et Frost, du coup, comme ils partent de cette idée de faire un soap-opéra, mais aussi de le transgresser, se jouent et multiplient, comme c'est pas permis, toutes les intrigues qu'il y a là-dedans. Beaucoup plus qu'un soap-opéra normal. Alors il s'appuie aussi sur le policier, puisque, on vous l'a dit, Dale Cooper enquête sur le meurtre de Laura Palmer. Et ça met au jour quelques rouages assez moches de la petite ville. On a effleuré le sujet sans trop vous dire quoi. On retrouve là derrière ce meurtre des histoires de traite de blanche, par exemple, qui démarre du rayon parfumerie du magasin Horn pour aboutir dans une maison close du plus mauvais effet au Canada, donc des filières dans lesquelles Laura est tombée, par exemple. Il y a des trafics de drogue à Twin Peaks entre notamment Léo et Bobby, qui étaient aussi des petits copains de Laura Palmer. Il y a des magouilles financières autour de la série, autour du projet Ghostwood, des projets immobiliers touristiques et des meurtres en cascade. Il n'y a pas que Laura Palmer qui passe l'arme à gauche à Twin Peaks. Donc là aussi, avec un nombre relativement réduit de personnages, on se retrouve avec un nombre exponentiel de criminels et meurtriers, c'est le cas de le dire. Donc là aussi, transgression des règles policières. Alors il y a aussi là-dedans, et ça c'est David Lynch, il n'y a pas moyen de faire autrement, un côté très surréaliste. Principalement axé autour de trois personnages qui sont ou qui ne sont pas réels, c'est un peu difficile à dire. C'est notamment le géant qui apparaît à Dale Cooper, qui lui lance des énigmes. En fait, il apparaît dans un halo de lumière qui paraît plutôt bon. Il y a un nain qui est lui uniquement dans la chambre rouge et dont on ne sait pas trop s'il est bon, pas bon, s'il est le boss ou s'il est un sous-fifre. Et il y a enfin Bob qui est lui, par essence, le personnage maléfique qui se rapproche un peu de l'esprit frappeur qui peut pas s'empêcher de faire des mauvais tours et qui contamine, on va dire, plusieurs personnes. Je n'en dirai pas plus, mais il y a par exemple un épisode où le signe de Bob, c'est un tremblement de main et on se rend compte qu'à Twin Peaks, il y a beaucoup de gens qui tremblent de la main. Du côté surréalisme, il y a aussi cette fameuse chambre rouge, l'endroit où se mélangent en fait la loge blanche et noire qui sont les lieux du bien et du mal. Donc là, c'est plus surréaliste que ça, tu meurs. En accord aussi avec la forêt, puisque l'entrée se trouve dans le cercle des 12 sycomores. Et c'est évidemment des métaphores qui sont difficiles à comprendre tout à fait. David Lynch adore ça, la chambre rouge, ça se retrouve dans beaucoup de choses. Ça c'est pour ce qui est de la mythologie, entre guillemets, mais il y a aussi tout plein de détails qui sont très surréalistes. Il y a une dame qui parle à sa bûche, il y a une dame qui se réincarne dans une poignée de terroir, il y a les doubles, les personnages doubles, Maddie qui est la cousine de Laura, il y a Nadine qui retombe en enfance, il y a la disparition un petit peu ovni du Major Briggs, il y a des personnages avec des personnalités un peu changeantes, Denise Brison, incarnée par David Duchovny d'ailleurs, la folie de Benjamin Horn qui revit la guerre sudiste. Donc il y a tout plein de petits détails comme ça qui font complètement surréalistes et qui sont disséminés par-ci par-là. Or finalement dans Twin Peaks, l'important c'est pas le meurtrier de Laura Palmer, contrairement à ce que certains, et notamment les dirigeants d'ABC, croyaient, mais c'est un mouvement perpétuel qui entraîne les personnages. L'idée c'est que ça ne se termine jamais. La preuve de ça, c'est qu'il y a des plans qui sont répétitifs et qui reviennent du début à la fin de la série. Je pense par exemple aux chutes d'eau ou aux feux tricolores, et qui montrent qu'en fait rien ne change à Twin Peaks et que
tout
le mal est éternel.
Allez, vous pouvez entrer. Ma bûche n'est pas contrariante. J'ai un peu de thé. J'ai des biscuits secs. Pas de gâteau.
C'est très aimable de votre part, madame, mais je ne crois pas que...
Ils sont comment, les biscuits?
Sucrés. Ici, nous sommes à l'abri des chouettes.
Un petit thé, ça me paraît une bonne idée.
Fermez les yeux et vous vous enflammerez.
Merci, Margaret.
Il faut savoir être patient. Il faut attendre pour le thé. Le poisson ne risque pas de t'étaler.
Est-ce que vous nous attendiez, Margaret?
Vous avez 2 jours de retard. Mais ça, vous l'avez cherché. Ma bûche a vu quelque chose. Oui, quelque chose de significatif.
On peut savoir ce que c'est.
Le thé d'abord. Soyez prêts ensuite.
Merci.
Mon mari était un vrai bûcheron.
Oh.
Il a rencontré le diable. Le feu, c'est le diable qui se cache comme un lâche derrière la fumée, oui.
C'était bien le lendemain de votre mariage, je crois, Margaret.
La forêt abrite des millions d'esprits, tu le sais, Margaret.
Posez-lui la question maintenant.
Qu'est-ce que vous avez vu ce soir-là, le soir où Laura Palmer a été tuée?
Chut. Laisse, c'est moi qui parle. Le noir, les rires, les chouettes virevoltaient. Beaucoup de choses étaient bloquées. Les rires, 2 hommes, 2 filles, des lueurs de lampes torches. Dans la forêt, au-dessus du pont, les chouettes étaient tout près. Le noir commençait à faire pression sur elles. Et puis le silence, et plus tard des bruits de pas. Un homme qui passe par là. Des hurlements. Très loin. Terrible. Horrible. Une voix, c'est tout.
Homme ou femme?
Femme. Plus loin là-bas, après le pont, les chouettes étaient silencieuses.
David Lynch adorait Twin Peaks, au point qu'il a eu un peu de mal à s'en sortir et à se retirer de cette fiction. Il en a fait un film d'ailleurs, qui reprend l'univers, qui s'appelle Twin Peaks Firewalk With Me, qui était une sélection officielle du Festival de Cannes en 1992. Et ce film, contrairement à ce qu'on pouvait croire, ne termine pas les intrigues lancées dans Twin Peaks, mais reprend en fait l'histoire en aval. Ce sont les 7 derniers jours de la vie de Laura Palmer.
Donc c'est une préquelle.
Effectivement.
Et on voit d'ailleurs le premier, ou ce qui est considéré comme le premier meurtre, l'enquête sur le premier meurtre de Bob.
Teresa Banks. Et c'est là qu'on voit Dale Cooper, qui n'apparaît pas beaucoup dans le film, mais on le voit en tout cas sur cette première partie du film.
Avec une prestation remarquée de David Bowie.
Entre autres, et de Chris Isaac. Mark Frost, lui, a décidé de ne pas y participer, tout simplement parce qu'il aurait bien voulu justement qu'on continue l'histoire et qu'on la conclue plutôt que de revenir en arrière. Pour les fans, d'ailleurs, soit dit en passant, il a déclaré qu'il lui paraissait hautement improbable de faire un téléfilm de clôture, certains le voudraient. Il dit que lui, c'est pas possible, d'abord parce qu'il est trop éloigné maintenant de cet univers-là pour y revenir. David Lynch, on n'en sait rien. Alors tous les personnages ne sont pas présents dans ce film, probablement parce qu'il y avait des problèmes de temps, d'évolution d'intrigue et de contrat, parce que tout ça devait se faire assez vite. Il faut savoir qu'il y a un saut temporel qui sépare les deux intrigues, donc c'est un film en deux parties, Teresa Banks d'un côté, Laura Palmer de l'autre, et Laura, on voit sa langue d'échéance, donc les 7 jours avant son meurtre, qui permettent de comprendre en fait comment elle en est arrivée là. Certains disent que la première partie est très bonne et la deuxième complètement nulle, et certains considèrent exactement l'inverse. C'est difficile de se faire une idée de ce film quand on ne l'a pas vu, et surtout quand on n'a pas vu la série. Quelques traits intéressants dans ce film, c'est que d'abord la déchéance de Laura Palmer permet de comprendre celle d'autres personnages dans Twin Peaks. Celle dont on voit la déchéance pendant la série et celle dont on devine la déchéance après la série, puisque je vous dis, ça se termine pas bien. Comprenez-y qu'un personnage reste en mauvaise posture et prisonnier du mal, et que donc on peut se dire que Bob va avoir sur lui le même effet qu'il a eu sur Laura Palmer. Ça aussi le mérite qu'on la voit, cette Laura Palmer, parce qu'on en parle beaucoup pendant la vingtaine d'épisodes de Twin Peaks sans jamais la voir, ou de manière très furtive. Là, au moins, on se confronte à ce personnage, qui a quelque chose d'attachant, même si c'est un personnage plutôt noir. Certains disent d'ailleurs que, je crois que même lui l'a dit, David Lynch a avoué être amoureux de Laura Palmer, et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas trop à s'en sortir. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien l'œuvre de David Lynch, il y a beaucoup de films dans lesquels on retrouve des personnages qui ressemblent très fort à Laura Palmer. Je pense à Lost Highway ou à Mulholland Drive, dans lesquels c'est le plus flagrant, avec ce jeu entre une brune et une blonde, entre des transferts de personnalité, avec même parfois dans Mulholland Drive une chambre rouge avec un nain à l'intérieur, je me demande même si c'est pas le même acteur d'ailleurs. Donc il y a des choses qui se ressemblent très très fort, et on dirait qu'il n'a jamais réellement quitté cet univers de Twin Peaks.
C'est vraiment une constante dans son œuvre en fait.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.